t'appelle depuis Kinshasa. Je suis tout à fait
moi,
d'accord.
Moi, c'est André de Mboujimaï, au Katanga oriental. Je réfute totalement ce qui
se passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi, au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Merci de votre fidélité à Radio Okapi qui vous accorde la parole dans sa troisième livraison de paroles aux auditeurs. Le Palou demande à la CENI de convoquer le cadre de concertation dans un bref délai en vue de résoudre rapidement les contraintes présentées dans le calendrier électoral. Pour le secrétaire général du parti Lumumbiste Unifié, Palou en sigle, son parti n'accepte le calendrier qu'à condition que celui-ci soit le dernier et qu'en conséquence, il ne pourra supporter une autre prolongation éventuelle qui, selon lui, ramènerait le pays 50 ans en arrière. Comment réagissez-vous? Vous pouvez participer à cette émission en direct en composant les 09 97 06 63 30 ou encore les 09 97 06 49 49 69. Ou bien vous avez la possibilité de poster vos commentaires sur notre page Facebook à l'adresse pa@radiokapi.net. Rejoignez-nous et appelez-nous, comme je l'ai dit, en direct. Toute l'équipe est là pour vous tenir compagnie. Nico Kalambay au standard, Alain Goy à la technique, Pierrot et Lamegi à la réalisation de ce programme coordonné et présenté par J.R. Lungembo Luabung Anji sous la supervision de Julien Nyamouini. Bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Voilà, nous avons en ligne Binta qui est en Bandaka. Binta, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour, monsieur J.R.
Quel est votre avis, Binta?
L'appel de du Palou à la concertation avec la CENI, de mon point de vue, c'est un non-événement dans la mesure où nous connaissons la participation, les degrés de participation de la Palou, du Palou, je m'excuse, sur la situation qui prévaut aujourd'hui au Congo. Le Palou est un acteur clé du régime actuel. La paix du Palou, à mon avis, n'a pas de raison d'être, dans la mesure où le Palou participe à la situation qui gangrène le pays. La CENI est politisée. La CENI, c'est une partie de la majorité présidentielle. Et quelle est la concertation? Est-ce que nous allons attendre de cette concertation du Palou? Je crois que le Palou doit être clair, doit prendre position et dire aux Congolais que moi, j'ai participé à ce régime qui est en train de méconnaître les droits humains. Donc, de mon point de vue, le Palou n'a pas de
raison
à donner aux Congolais
par rapport à cet appel-là. Quand vous faites allusion à ce parti qui est un acteur clé du régime actuel, vous voulez dire quoi exactement? Est-ce que vous faites allusion à cette alliance de 2006 entre le Palou et la majorité présidentielle?
Et oui, justement, la démocratie qui s'est exprimée, le vote qui s'est exprimé en 2006, et qui l'a battu en brèche, c'est le Palou. Vous savez, en 2006, les élections qui se sont passées en 2006, c'est Palou qui a participé, qui a détourné le pouvoir. Il est complice de ce qui s'est passé. Nous savons qui était élu en 2006. En 2011, également. Quelle était la part de responsabilité du Palou? Donc, moi, je crois que le Palou doit cesser de nous distraire. Et nous devons tous, tous les peuples congolais doivent se mettre debout pour
réclamer
le pouvoir du peuple qui est confisqué.
Oui, Binta, vous le savez aussi bien que le cadre des concertations n'est pas une invention des Palous, parce que la CENI elle-même a travaillé pendant un certain temps avec ces cadres juridiques qui réunissaient d'un côté la majorité, l'opposition, ainsi que la CENI pour discuter de l'avancement du processus électoral. Aujourd'hui, le Palou ne fait que réclamer ce qui est déjà de droit, ce qui existait avant, pour permettre à ce qu'il y ait l'avancement du processus.
Mais c'est bien, lorsqu'on a vu la CENI, Nanga, je cite, participer à la réunion de la majorité présidentielle, monter des stratégies pour chercher comment conserver le pouvoir, avec la loi électorale, avec donc il est la CENI est dans c'est une des machines qui travaille pour que le pouvoir actuel puisse demeurer. Et donc la concertation avec les panneaux est en train d'appeler, avec les acteurs politiques ou les partis politiques. Moi j'ai dit, mais c'est JR, de mon point de vue, les panneaux doivent cesser de nous distraire.
Oui, mais en insistant.
Ils ont fait leur temps. Aujourd'hui, le peuple réclame l'appartenance au pouvoir. Nous devons aller aux élections et pour arriver, on doit respecter les cadres. Le débat que nous avons eu hier nous a démontré qu'il y a une fraude déjà qui est organisée au niveau de la loi électorale lorsqu'on écarte les Congolais qui ont le droit d'être élus.
Merci
voilà.
Beaucoup.
Donc, de mon point de vue, je dis, l'appel du Palou n'a pas sa raison d'être.
Merci beaucoup, Binta, pour vous, étant donné que le Palou est un acteur clé du régime actuel. Vous estimez que cette idée de pouvoir convoquer les cadres de concertation, qui du reste avait déjà existé, ne vaut plus son pesant d'or, parce que ça constitue une simple distraction. Le peuple a besoin simplement d'une alternance. Merci beaucoup, Bita. Jean-Claude, vous êtes à Kindu. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs. Jean-Claude, vous êtes avec nous? Voilà. On prend Elie qui est en Bandaka. Elie, bonjour.
Oui, allô. Bonjour, Radio Capi. Je salue tous les auditeurs.
Vous avez la parole, Elie. Est-ce que vous estimez, comme Bita, que Palou n'a pas droit au chapitre, le fait qu'il soit à l'alliance avec le PPRD, aujourd'hui réclamer un cadre de concertation, ça relève quand même d'une pure distraction?
Je ne peux pas m'inscrire dans cet ordre d'idées, parce que c'est son point de vue. Il a émis son argumentaire qui ne dépend que de lui-même. Moi, personnellement, que ce soit la dépendance ou les palous dont la majorité présidentielle, cela n'exclut pas au palou d'émettre son point de vue par rapport à l'évolution de l'appareil étatique, c'est-à-dire la question liée à la publication du calendrier des élections aujourd'hui qui de toutes les façons est boycotté d'une partie par la société civile, par les partis politiques qui ont fait de l'opposition tout comme de la majorité, de la plupart des cas, les calendriers publiés par la CENI a produit les jours des discussions jusqu'à ce que nous ne sommes pas d'accord de ces calendriers publiés par la CENI. Donc je m'inscris vraisemblablement à la logique de du Palou pour avoir demandé aux autorités de nous amener dans un cadre de concertation. Deuxième point, je voulais aussi vous rappeler que les calendriers publiés par la CENI, vous le connaissez très bien, avaient présenté des contraintes extrêmement dangereuses. Parce que lorsque nous citons 24 contraintes, parce que Corneille Nangaa lui-même avait très bien dit par cette déclaration à la radio Capi, que lorsque toutes ces contraintes n'ont pas trouvé de solution, les élections seraient probablement difficiles de se tenir ici dans la République. Et surtout ça, je dirais clairement, et je ne cesserai pas de dire, il faut qu'il y ait un dialogue et des facilitations au JR.
Merci.
S'il n'y a pas un dialogue et des facilitations entre les parties prenantes de l'accord de la Saint-Sylvestre, il n'y aura pas élection.
Merci beaucoup.
L'Église catholique, je veux souligner un problème, l'Église catholique qui mène aujourd'hui une manifestation pacifique, c'est pour déclarer la mise en œuvre intégrale de l'accord.
Voilà. Alors, je crois qu'au cours de cette émission avec notre invité, on verra aussi si cet accord est encore d'actualité. Jean-Claude, vous êtes à Kindu, bonjour et bienvenue.
Bonjour, monsieur Julien, bonjour et faire l'ensemble de votre radio Café.
Quelle est votre contribution à ce niveau du débat?
Oui, comme l'a dit Bita, à partir de Mbandaka, c'est un événement, parce que les palous viennent d'ouvrir la porte écrasement ouverte. Le jeu des palous, c'est pas tout simplement les palous, c'est presque tout le monde qui déclare à corps et à cri ce que les palous a dit. Et d'ailleurs, pour ce qui concerne la CENI, nous l'avons vu au mois de décembre, juste avant la fermeture de la session, il y a l'honorable de l'INC relatif à l'honorable général Mulongo, qui a demandé que la CENI puisse venir se justifier parce qu'il a dit, après chaque trois mois, la CENI doit venir au niveau de l'Assemblée nationale rendre compte. Mais jusqu'à preuve du contraire, nous avons vu comment les députés de la majorité présidentielle n'ont pas voulu que la CENI puisse venir. C'est comme l'a dit Bita, c'est une machine, c'est une pièce à résonance, où un bras séduit de la majorité présidentielle. C'est qu'il y a un arbre qui cache la forêt, il y a une certaine zone d'ombre. C'est ce qui justifie tout ce que nous voyons aujourd'hui. Si demain, le Palou, c'est à partir de 2006, 2011, et jusqu'au niveau de la convocation de concertation, on a vu comment le Palou était au niveau de l'avant-plan pour pouvoir défendre ce régime. Donc, c'était un événement, comme l'a dit mon prédécesseur, qui a ouvert l'émission. Nous tous, nous sommes focalisés vers l'alternance. Nous, ce qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est voir comment on ne parvient même pas à respecter nos textes. Quand j'entends, moi je répète toujours à travers vos ondes, quand j'entends nos amis de la majorité, ils disent que non, ils sont prêts, et aujourd'hui ils commencent à nous chanter le calendrier électoral comme si c'est ça la constitution. Mais quelles élections? Parce qu'eux-mêmes disent que non, cette fois-ci, ils veulent nous organiser les élections les plus démocratiques jamais connues dans l'histoire de ce monde. Moi, je suis étonné. Quand on voit comment les mesures de crispation ne sont pas jusque-là, ne nous tolèrent. On voit, les gens de l'opposition iront où, alors qu'ils ne font même pas une seule minute, pas même un seul lettre pour pouvoir être arrêté.
Merci beaucoup.
Quel genre de élections au juillet?
Merci beaucoup, Jean-Claude.
Les Palous arrivent en retard, bon, ils n'ont jamais été pas comme de faire. Nous sommes d'accord avec eux. Allons-y. Mais d'après moi, c'est selon l'événement au juillet.
Merci beaucoup, Jean-Claude. 09 97 06 49 69 ou encore les 09 97 06 63 30 pour votre intervention en direct. Voilà, on est dans ces studios.
Parole aux auditeurs.
Voilà, on se retrouve dans ces studios avec Steve Kiwata, qui est un cadre de Palou. Bonjour Steve.
Bonjour J.R.
Voilà, d'entrée des jeux, on se rend compte que l'alliance, petit à petit, se rompt entre la majorité et les Palou, parce qu'avec cette déclaration qui pousse en fait la population à rejoindre, nous avons suivi pratiquement la majeure partie, dire que voilà, on rejoint l'idée de Palou de pouvoir convoquer rapidement les cadre des concertations pour un aboutissement heureux du processus électoral en fait d'obtenir l'alternance. Et le Palou promet d'avoir des candidats même au sommet de l'État à la présidentielle.
Eh bien, je pense que malheureusement dans notre pays JR, nous avons un problème de culture politique, voire même de culture démocratique. Il faut savoir que le Palou est un parti politique à part entière. Et d'ailleurs, le plus ancien de partis politiques, créé en 1964, le Palou n'est pas un parti siamois, qui est né avec un autre parti politique, et même à la limite, même pas un parti jumelle à un autre parti politique. Et même, je vous rappellerai qu'en 2006, le Palou avait ses candidats à tous les niveaux. Et s'il s'est fait qu'on a pu gérer avec l'AMP de l'époque, avec le président Kabila, disons-le tout simplement, parce qu'il était candidat indépendant et le Palou a fait une alliance avec lui, c'est parce que les élections ne nous ont donné que cette option-là. Eh bien, en politique, il n'y a pas Dieu, il n'y a pas le diable. Il n'y a que deux partis politiques avec qui on peut faire des alliances pour gérer. C'est ça la question. Est-ce que ces alliances peuvent être considérés comme étant un mariage où on est là pour le meilleur et pour le pire jusqu'à ce que la mort nous sépare? Bien sûr que non. Les alliances sont limitées dans le temps, sont limitées par rapport à des mandats. Et je vous rappelle qu'effectivement, aussi, aux circonstances et à certaines évaluations de ces alliances-là, parce que si on veut renouveler une alliance, on doit faire des évaluations. J'espère que c'est en train de se faire entre le Palou et l'AMP. Mais aussi, il y a un élément important. Quand on dit l'aspect temps, en 2006, il y a une alliance. En 2011, ça a été renouvelé parce que le Palou ne concevait pas avoir géré avec quelqu'un qui avait encore l'opportunité constitutionnelle de briguer un deuxième mandat, de lui en priver. Pourtant, on avait le même bilan à défendre devant le peuple. Or, il s'est fait qu'en 2016, l'alliance devait, en principe, se terminer parce que c'était la fin du mandat constitutionnel du président de la République. Dès lors, la question ne se pose plus si le Palou est en alliance ou pas avec la MP, parce que elle est censée avoir été terminée en 2016. Et je vous rappelle que dès lors, notre pays est géré par rapport à un accord qu'on appelle l'accord de Saint-Sylvestre, qui a donné un autre pouvoir aux partis politiques par rapport à leur représentativité au niveau du Parlement. Donc ce n'est plus trop par l'alliance MP-Palou que le Palou gère, mais c'est plutôt à l'accord de Saint-Sylvestre. Par conséquent, la déclaration d'aujourd'hui, je pense que c'est à la limite un non-événement, mais dans le sens positif, que les gens devaient savoir que le Palou, comme parti politique, et d'ailleurs comme le plus ancien parti politique, devait avoir de plus grandes ambitions, parce qu'il a une histoire, parce qu'il a une culture politique, parce qu'il a une vision politique qu'il peut vendre au peuple au plus haut niveau, au niveau de la présidentielle.
Oui, mais cette pensée développée aujourd'hui par Palou, d'aucuns, en tout cas des hommes avertis, qui lisent aussi, en scrutant un peu quelques déclarations de l'un des ténors d'ailleurs du parti, pour ne pas les citer, Adolphe Mouzitou, qui par plusieurs fois d'ailleurs a eu à les dire dans cette tribune, qui réclamait d'ailleurs un cadre de concertation, qu'il appelait un troisième dialogue, notamment. Est-ce qu'il y a un parallélisme entre les cadres de concertation qu'on réclame Palou dans son entièreté aujourd'hui, et le troisième dialogue que réclamait un des membres de son parti, pour ne pas le citer, Adolphe Mouzitou?
Effectivement, il y a un parallélisme. Il vous souviendra déjà dans la 16e tribune qu'on en a appelé au troisième dialogue. Pourquoi? C'est pas parce qu'on a envie de dialogue, c'est pas parce qu'on a envie que les gens s'étapent de perdième, mais c'est tout simplement parce que on le disait bien avant, et on le savait, que le rapport de force entre le CNSA, le gouvernement et la CENI n'étaient pas de nature, effectivement, à nous produire de bons résultats, parce qu'on sent plus ou moins que le point de vue se converge à travers le CNSA, la CENI et le gouvernement. Par conséquent, pour éviter la méfiance des acteurs importants du système politique, que sont le parti politique, d'ailleurs l'opposition qui n'est pas assez représentée, il faudrait créer un autre cadre, et c'est ce qui est appelé aujourd'hui par le Palou, et c'est ce que l'ancien Premier ministre Mouzitou prévenait déjà à travers ses tribunes, parce qu'il savait que il allait se poser ce problème. Et le Palou l'a bien rappelé. Pourquoi nous insistons sur cet aspect? Pourquoi nous disons que les derniers, ces calendriers doivent être les derniers? C'est parce que le Palou, c'est un produit des élections. Même les alliances dont on parle aujourd'hui.
Quand vous dites que c'est grâce que ce soit les derniers calendriers, avez-vous déjà un candidat à la présidentielle, notamment?
Ben, le candidat à la présidentielle.
Parce que la machine, la centrale électorale de la majorité tourne déjà à plein régime. Mm-hmm. Ils ont déjà aligné leurs candidats. Mais de l'autre côté de l'opposition, c'est vrai, ils se disent aussi prêts pour aller aux élections. Mais aujourd'hui, Palou, par exemple, qui dit, bon voilà, convoquons un cadre de concertation, a-t-il des candidats à la présidentielle ou encore aux députés, au niveau des députations nationales?
Bien sûr que oui. Mais est-ce que on est déjà maintenant au moment où il faut le présenter? Bien sûr que non. Au niveau interne, on est en train d'y travailler. Mais je pense que la plus grande question qu'il faut se poser, est-ce que le Palou est à même de présenter ses candidats à tous les niveaux? Bien sûr que oui, parce que nous avons le militant partout, et c'est tout ce que effectivement ces militants demandent. Notre base veut que le Palou ait un candidat à la présidentielle, et ainsi qu'à tous les niveaux.
Alors qu'est-ce qui va se passer si jamais ce calendrier n'est pas le dernier?
Eh bien, le Palou, en ces moments-là, prendra ses dispositions. Il faut savoir que nous sommes nés en 64. Et les gens qui ont créé le Palou, eh bien, ils avaient de partis politiques bien avant 1960. Nous avons une culture de l'opposition. Nous avons une culture de la contestation. Nous avons fait 42 ans à l'opposition. Aucun parti politique aujourd'hui a 42 ans à l'opposition. Donc, nous savons faire de l'opposition. Nous savons faire de la contestation. Nous disons que ce calendrier doit être le dernier. Eh bien, nous demandons à la CENI, pour qu'on n'en arrive pas à un autre calendrier, il faut qu'on mette en place ces cadres de concertation entre le parti politique, la CENI, la MONUSCO et même les gouvernements.
Voilà, on va retrouver Clément qui est à Kinshasa, Adria Kananga. Clément, bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour JR, bonjour aux auditeurs de la Parole aux auditeurs ainsi que de la radio 4.
Quelle est votre contribution?
Ok, merci beaucoup. D'emblée, je voulais déjà préciser, c'est quelque chose qui est déjà le cadre du Palou venait de dire. Et là, je pense bien le mariage entre Palou et l'AMP avait déjà cessé d'exister déjà il y a à peu près, je ne sais pas, une année ou deux ans. C'est tout à fait normal. Mais Le problème en est que...
Mais oui, mais donc, Palou, quand vous dites que cette alliance n'existe plus, est-ce qu'il y a eu une déclaration officielle?
Oui, bien sûr.
Le divorce
sûr,
entre les deux.
J'en reviens, monsieur Gilles. J'avais suivi l'autorité morale du Palou et en tant qu'Izenga qui avait tout à fait déclaré, là, je pense bien, et avant la fin de l'année passée, que la tripartite n'a pas de confiance. Hein. Vous voyez que la tripartite actuelle entre CENI, gouvernement ainsi que CENSA ne donne pas confiance à toute la classe politique. Et je pense bien que le Palou a la raison de dire, ou soit de proposer un point de vue pareil. Mais tout à fait, je voulais que le Palou ne soit pas un revers en ce moment-ci où tous on voit, on peut voir, nous avons des yeux pour voir ce qui se passe dans notre pays, avec qui on doit se concerter, parce qu'il y a déjà plusieurs fois que nous avons eu à se concerter. Et vous voyez les camps qui est en face. Nous avons vu que mais les cadres du Palou qui est sur place là soutient encore les propos d'Adolphe Mosito, soi-disant du troisième dialogue. Est-ce que les anciens dialogues, les anciennes concertations, quels sont les résultats de ces anciennes concertations afin de pouvoir convoquer le dernier ou qui doit nous fixer réellement si le calendrier sera et la dernière ou pas, ou le dernier ou pas. Vous voyez que c'est je suis en train de voir comme si le Palou je ne sais pas dans quel cas il se situe. Et je voulais profiter de cette occasion pour poser la question au cadre du Palou, dans quel cas le Palou peut se retrouver en ce moment. Parce que nous avons d'un côté les centres, nous avons d'un côté l'AMP, nous avons l'opposition. Et le Palou se retrouve
à gauche ou à droite.
On ne parvient pas à tuer le Palou.
Ça nous ramène encore à ce débat.
Lorsqu'il y a l'air libre, on ne parvient pas à comprendre vraiment.
À gauche ou à droite, au centre.
Ça essaie un peu d'amener la population à croire que le Palou, c'est un parti là qui, excusez-moi, c'est un peu plus la distraction. Merci.
Merci beaucoup, Clément. C'est une question qui vaut d'ailleurs son pesant d'or. Lorsque vous voulez quand même vous situer par rapport à l'idéologie développée par Palou aujourd'hui, est-ce qu'ils sont des gauches, des droites ou au niveau des centres? Je crois que c'est une question quand même directe, Steve. Est-ce que vous pouvez quand même répondre à cette question? Parce que par plusieurs fois, vous avez développé des théories dans les différentes tribunes et aussi dans les différentes réflexions en ce qui concerne la précision sur l'idéologie développée par Palou aujourd'hui. Les camps, c'est vrai, l'alliance, vous êtes tous des gauches, ou extrêmement des gauches, ou du centre?
Non, bien sûr que le Palou est de la gauche. Mmh. Et d'ailleurs, il se pose effectivement un problème en termes d'idéologie des regroupements politiques. Je pense que dans les derniers discours, le patriarche l'a dit clairement que le Palou doit prendre le leadership de la gauche. Et on a appelé plusieurs partis politiques et même des syndicats et d'autres corps intermédiaires pour venir avec le Palou pour qu'on constitue ces nouveaux regroupements, parce que la plupart des regroupements sont plus constitués en termes de positionnement politique qu'en termes de vision et d'idéologie politique. Nous sommes en train de les constituer. Mais le Palou, si on peut se poser la question où se trouve le Palou, c'est le Palou se trouve là où le peuple se trouve. Le peuple veut que ceux qui gouvernent proviennent des élections. Et nous avions clairement dit que nous avons besoin de ces élections et le plus vite possible. On tient à ce que ces calendriers soient exécutés et on va y tenir. On demande à la CENI de mettre en place ces cadres. Eh bien, monsieur, je sais pas, Adrien, il a posé la question Clément. Je sais que effectivement, quand on parle du dialogue, on pense carrément à ces formats où les gens se réunissent, où ils se donnent de per diem, mais le cadre dont on parle, quand c'est un cadre de change, eh bien, c'est plus ou moins notre dialogue. Bah alors, parlons du cadre aussi, ça peut moins faire peur. Donc, c'est effectivement ce dont on a besoin. Nous, on a besoin des élections parce que nous sommes un produit des élections. Pendant 42 ans, on n'a jamais partagé le pouvoir par des combines, par des dialogues. Nous ne sommes venus au pouvoir qu'à travers les élections.
Vous réclamez ces cadres de concertation. Par conséquent, si vraiment il n'arrivait pas, il y aura le troisième larron.
Le troisième larron, on ne le prévoit pas. Le troisième larron viendra quand il voudra. Mais nous, on tient à ce que tout se passe de manière démocratique parce qu'on l'a dit dans les discours que nous tenons à une passation de pouvoir démocratique et apaisée. Nous tenons à la succession des gestionnaires, que ce soit à la tête de l'État, disons-le à tous les niveaux. Nous l'avons clairement dit et on a dit qu'on ne cautionnera jamais.
Mais quand vous avez parlé des troisième larrons, concrètement, vous avez voulu dire quoi? Au cas où l'opposition, la majorité ne s'entendait pas dans un cadre légal, sûrement il y a une troisième personne qui va s'improviser.
Effectivement, la troisième personne qui va s'improviser, et quand on parle de l'improvisation, on ne la prévoit pas. Ça, c'était une interpellation aux acteurs politiques pour leur dire « faisons attention ». Parce que le troisième larron, quand il arrivera, c'est vrai, il pourra neutraliser tout le monde, mais avec quel projet viendra-t-il? Sera-t-il un démocrate? Lui-même saura-t-il laisser les pouvoirs au moment opportun? C'est ça la grande question. Par conséquent, faisons en sorte que le peuple puisse désigner de nouvelles personnes et que ceux qui ont de mandats limités par la Constitution, eh bien, qu'ils ne puissent pas violer ces dispositions.
Adrien est à Kananga. Adrien, bonjour et bienvenue.
Bonjour, monsieur l'invité.
Quelle est votre contribution, Adrien, à ce niveau du débat?
Oui, Gérard, il faut dire d'abord que ce n'est pas parce que le Palou est en alliance avec la majorité présidentielle que le Palou n'a pas le droit d'exprimer ou bien d'émettre un point de vue. Et aussi, nos amis doivent savoir que les alliances se font et se défont. Deuxièmement, aujourd'hui, je ne comprends pas bien donc l'idée du Palou parce que Palou demande le cadre de concertation. À mon humble avis, je m'estime que c'est vraiment tard et aussi le Palou est en train de chercher une chose et son contraire à la fois. Parce que non seulement il s'est limité à demander le cadre de concertation, mais le Palou ajoute en disant que il n'acceptera pas cette fois-ci un quelconque report des élections. C'est là que moi je me pose la question. Comment vous pouvez chercher... vous pouvez réclamer le cadre de concertation parce que nous savons tous comment est-ce que les Congolais tirent les choses en longueur. Si on vous l'accorde, vous allez prendre compte que ça peut éclabousser même le calendrier électoral. C'est là que j'estime que la demande du Palou est inopportune. Pourquoi? Lorsque certains donc acteurs politiques de notre pays réclamaient au lendemain de la publication du calendrier que ce calendrier n'était pas consensuel, le Palou s'est têtu, et lorsque ces acteurs-là avaient demandé à la population de manifester, on a vu le Palou dans une sorte de mesure, donc réprimé. Pourquoi j'ai dit dans une sorte de mesure? Parce que donc le vice-gouverneur est issu du Palou de Kinshasa. Donc le Palou, dans une sorte de mesure, réprimait cette manifestation. Au jour d'aujourd'hui, revenir à la case du départ, je pense que ce n'est pas du tout bien. Mais j'ai fini, je chute en disant que...
Oui, mais Adrien, à un certain moment, nous avons suivi plusieurs analyses faites par certains cadres du Palou, qui, au fait, cadrent aujourd'hui avec la réalité, quand certaines analyses ont évoqué la non-existence de l'État, par exemple, avec un État sans budget, n'est-ce pas, dans une des analyses. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'à un certain moment, ces analyses se confirment quand même, ou s'affirment?
Oui, ces analyses se confirment, c'est là que je voudrais maintenant chuter pour dire que si c'est de bonne foi que le Palou demande le cadre de concertation, en ce moment-là, je demanderai aux acteurs politiques congolais de tirer vraiment, donc de suivre cet appel avec une attention soutenue. Pourquoi? Parce que il y a un adage qui dit si un hippopotame vous dit que le crocodile est malade, il ne faut pas refuser parce que les deux vivent dans l'eau. Étant donné que le Palou est au pouvoir, ce cri d'alarme de Palou, il faut que les uns et les autres puissent tirer attention. Mais si c'est de mauvaise foi, c'est-à-dire quoi? Si on veut utiliser le Palou comme un bouc émissaire pour perturber tout simplement le calendrier électoral, à ce moment-là, le Palou risque de transporter toute la responsabilité du pays.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, Adrien. Alors, Ismaël, vous êtes à Lubumbashi. Bonjour et bienvenue. La parole aux auditeurs.
Bonjour, Gilles Longembo. Bonjour à tout le monde.
Quelle est votre contribution?
Mon inquiétude se trouve...
Oui, quelle est votre contribution? Votre inquiétude, vous voulez dire?
Oui, moi... Je rassemble seulement l'idée, dans la démocratie, on peut tout faire. Mais néanmoins, on peut être la majorité, soit de l'opposition, soit un allié, mais l'alliage peut avoir une fin. Le problème, c'est que quand les autres ont dit non, nous allons nous débarrasser de cette alliance, les autres ont resté. Mais voyez le moment et le calendrier et tout ce qui se passe. Je compare vraiment la politique congolaise comme la pédiatrie, hein, dont on n'a pas vraiment mature de prendre une décision sûre. Là, on appelle la psychologie un velléitaire, c'est celui qui est incapable de résister sur sa décision. Nous avons vu qu'aujourd'hui, on avait beaucoup de partis politiques qui étaient de la majorité, mais qui se sont dit, aujourd'hui, nous allons laisser la majorité. Pour quelle cause? C'est parce qu'ils ont sucé tous ceux qui étaient comme du temps, et ils ont même allé au-delà de leur temps. Ceux qui étaient comme députés provinciaux, ils ont allé même au-delà de leur mandat. Là, il n'y avait pas de problème. Mais le problème, c'est quoi? Comme ils sont déjà dit, nous étions de la majorité. Il a fallu ce qui est jusqu'à la fin de la majorité. Si vous imaginez un peu les pronostics, quand Mouzito était du pouvoir, il n'a pas dit que le Congo fonctionnait sans budget. Mais quand il a quitté le pouvoir, il a dit lui-même que le Congo était un état sans budget. C'est grave. Maintenant, s'il va quitter de la majorité, aller de l'autre côté, qui va payer sa charge? Et à quoi il va? On va faire son budget. L'évaluation de tout ce qu'il a fait. À mon point de vue, je vois l'Afrique d'ici dans un pays démocratique. On voit même ceux qui sont du gauche critiquer le pouvoir, ceux du droite critiquer, de gauche critiquer. Il n'y a pas de souci. Le problème, c'est l'état où nous sommes, où le calendrier est sur la table. Qu'est-ce qu'on préfère? On peut seulement faire l'analyse de tout ce qui est là. Je vois que tous ceux qui étaient de la majorité, ils étaient là en train d'opprimer les gens ici à Lubumbashi, qui voulaient faire du n'importe quoi. Mais maintenant, ils pensent seulement que la charge reviendra au président de la République. Et pourtant, ils étaient des alliés. Pour bien dire, Mouzito et son gouvernement et le Palou, ce sont des partis politiques qui ont fait la honte de ces pays. Ils ne peuvent pas prendre ce genre de décision. Merci. Si vous voyez, quand il dit que non, c'est comme il faut être, bon, que le Congo soit comme un jardin, où chaque fleur doit bénéficier aussi d'arrosage. Mais c'est déjà trop tard. À mieux qu'il retourne à la raison. La raison, c'est quoi? Parce qu'ils étaient opposants. Ils se sont dit que nous sommes de la majorité. Qu'il reste de la majorité plutôt que de quitter la majorité tôt afin d'aller faire tout ce qu'ils ont en train de dire. Avoir un candidat, non, il n'y a pas de problème. Il faut maintenant qu'ils se séparent en bonne et épidiforme. Le problème, c'est qu'on ne veut plus encore retarder les élections, tel qu'on a l'accord.
Voilà, c'est l'alternance qu'on veut.
En même temps, on lit même la Constitution. C'est ça, c'est qui est à mon avis.
Merci beaucoup, Ismaël. Réaction, Steve Kivuata.
Oui, premièrement, je voudrais quand même recadrer rapidement, je pense Ismaël. Que c'est monsieur Ismaël. Il a dit une chose et son contraire. Il dit que le Palou ne doit pas se dire avoir quitté la majorité pour défendre le bilan. Et il a clairement parlé de l'ancien Premier ministre Mouzito. Eh bien, nous, on lui dit simplement que la majorité ou l'opposition s'est définie par rapport aux élections. Et d'ailleurs, la position de l'ancien Premier ministre jusqu'en 2016, c'était qu'il était de la majorité. Il faut se rappeler que même devant le combattant, il a dit qu'il était de la majorité parce qu'à l'époque, on était dans le délai constitutionnel. Et d'ailleurs, il a clairement dit... Il a eu à gérer. Il doit défendre un bilan. Et pour le défendre, il doit se définir tel quel. Mais deuxièmement, il a agi comme tout Congolais. Les Congolais n'aiment que lire des titres, mais ils n'entrent pas à l'intérieur des ouvrages. Quand on parlait de l'État sans budget, on n'a pas dit que le budget n'a jamais existé. Le budget de l'État, c'est un concept assez financier, assez complexe. Le budget de l'État, c'est l'ensemble du budget. Le budget du pouvoir central, qui est défendu au niveau du Parlement national, mis ensemble avec le budget des provinces. C'est ça le budget de l'État. Or, lui, il faisait le budget de l'État parce que, à l'époque, on consolidait avant de présenter devant le Parlement.
Mais quand il avait dit, personne n'avait fait attention. Hein. Mais lorsque le révérend pasteur Ekofo revient sur la non-existence de l'État, finalement, ça relance le débat.
Voilà. Donc, il y avait, après la loi qui a changé, mais malheureusement, le Premier ministre Matata ne faisait pas un budget consolidé qui réunissait même le budget de province. C'était ça la grande question, mais c'était pas l'inexistence du budget. Hein. Il doit prendre l'ouvrage et lire, il va mieux comprendre. Mais il revient encore sur la fameuse question. Ici, quand on parle du cadre de concertation, c'est pas parce que on veut jeter des pierres à un camp ou à un autre, mais on a parlé d'abord de la méfiance de toute la classe politique envers cette tripartite, mais quelles compétences donne-t-on à ces cadres de compétition, cadres de concertation? Le Palou dit clairement dans son discours que la CENI doit faire harmoniser et valider chaque étape de l'organisation des élections avec les différents intervenants, gouvernement, partis politiques, parlement, société civile et partenaires, MONUSCO et pays amis. Voilà la compétence qu'on donne au cadre de concertation. Et c'est donc lié au fait que on ne voudrait pas un autre calendrier, parce qu'on veut étape par étape que toutes les parties prenantes puissent surveiller, voir quelles sont les difficultés, parce qu'il y a eu assez de contraintes, mais comment est-ce que la CENI, avec ses partenaires, peuvent analyser les choses et prendre des décisions à temps pour qu'on n'ait pas un autre calendrier, pour qu'on ne reporte pas les élections. Donc, le Palou n'est pas dans un schéma.
Il est prévu la tripartite d'ici la fin du mois, parce que on va atteindre déjà la fin de l'identification et de l'opération d'enrôlement dans les Kassai. Et il est prévu, c'est l'actualité d'ailleurs qui
est annoncée. Ainsi que nous disons, la tripartite ne suffit pas. Ce n'est pas un cadre auquel toute la classe politique...
Parce que la question est éminemment politique.
Effectivement, la question est éminemment politique, et il faut savoir que tel que l'accord a été exécuté, eh bien, cette tripartite-là n'aspire plus la confiance de toute la classe politique. D'où, la tripartite doit être récomposée pour qu'on parle plus de ces cadres d'échange entre la classe politique, la société civile...
Ce n'est pas une façon de remettre en cause l'accord de la Saint-Sylvestre?
Eh bien, je pense que les accords sont faits pour les hommes, et par les hommes, et non le contraire. Je pense que il faut évaluer cet accord, voir là où il y a de faiblesses, et arriver à les corriger, parce qu'au finish, c'est dont tout le monde veut, et surtout, principalement, les démocrates, c'est que on remette le pouvoir au peuple. D'ailleurs, c'est un slogan du Palou. On doit permettre à ce que le peuple puisse s'exprimer, et la meilleure façon pour le peuple de s'exprimer, ce sont les élections.
Félicien nous a rejoint aussi à ce débat. Félicien, vous êtes à Kinshasa. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour, Gérard. Bonjour à tous les auditeurs de Radio Capi, et bonjour à Steve et l'invité que j'ai salué en passant.
Bonjour Félicien.
Quelle est votre contribution à ce niveau du débat, Félicien? Vous avez suivi les auditeurs qui vous ont précédé, Bita, Jean-Claude, Clément, ainsi que Ismaël. Tous, en tout cas, unanimement, regrettent au fait le divorce qui semble être consommé entre le Palou et la majorité, mais demander un autre cadre des concertations. D'aucuns estiment que c'est inopportun, parce que tout le monde attend les élections en ce moment où on réclame l'alternance.
Ah oui, mais le problème, ce que je constate dans ce pays, c'est que les hommes politiques n'ont pas de respect envers le peuple. Et ils sont en train d'utiliser l'ignorance de la population, l'analphabétisme de la population pour leurs propres intérêts. Moi, je pense que aujourd'hui, il faut qu'il y ait une nouvelle classe politique qui commence à prendre conscience que on ne doit pas penser que le peuple soit un instrument qu'on doit manipuler comme on veut, mais ceux qui sont déjà éclairés doivent travailler pour que même ce peuple-là qui n'est pas encore éclairé puisse comprendre plus tard que c'est pour leur bien qu'on a fait ceci, qu'on a fait cela. Et qu'on pousse à respecter le peuple comme ailleurs, vous avez vu... en France, Hollande n'a pas voulu briguer le deuxième mandat parce qu'à cause seulement des sondages. C'est-à-dire qu'il a senti que le peuple n'était plus de son côté et il a abandonné. Mais chez nous, on s'en fout de tout cela. On manipule. Mais comment est-ce que des gens qui ont déjà été au pouvoir, des gens qui n'ont rien fait pour leur peuple, leur population, leurs membres de parti qui croupissent encore dans la misère jusqu'à aujourd'hui, et ils ont trouvé leur part, ils sont devenus des riches, de la pauvreté à la richesse. Après, ils commencent encore à donner des leçons, au lieu de se taire, au lieu de rester calme, et au lieu de regretter pourquoi on a fait ceci, pourquoi on a fait cela, et qui n'a pas abouti, qui n'a rien apporté au peuple. Et c'est là que nous devons arriver à prendre conscience de cela. Quand nous allons commencer à comprendre conscience de cela, et nous devenons des hommes d'État.
Est-ce que Félicien, vous, à votre niveau, vous avez encore confiance à la tripartite, CENSA, gouvernement et CENI, comme le dit le Palou aujourd'hui, il y a cette ce manque de confiance hein du peuple par rapport à cela, parce que d'ailleurs le CNSA n'a pas un cadre légal, il a fallu une convocation de l'Assemblée ou du Parlement, la session extraordinaire pour pousser à ce que cette institution puisse avoir un cadre légal. Aussi déjà les débats se poursuivent et la session va même se clôturer. Le CNSA qui évolue dans l'illégalité, et laisser cette tripartite, c'est vraiment ne pas avoir le respect du peuple.
Oui, mais GR, parce que c'est à vous à poser des questions, posez un peu la question, dans quel climat on va avoir un cadre,
dans quel climat,
dans ce climat où il n'y a pas de
climat politique, vous voulez dire,
et où les gens se battent, où même pour un rien on tue, et tout ça, dans ce cadre-là, on va faire la concertation avec la CENI, quand on voit déjà la position de la CENI, qu'il est de l'autre côté, qu'il n'est pas neutre. Et comment est-ce qu'on va faire cela, quand on sait comment on a créé le CENSA, et dans quel cadre évolue le CENSA, comment on va faire cela quand on sait que et le CENSA et le gouvernement, tout ce qui faisait de bruit du côté de l'opposition, tout ce qui injuriait la majorité et le président de la République, ils sont passés là-bas, maintenant ils ont la même position que ceux qui sont de l'autre côté. Mais alors finalement, c'est qui et qui va se concerter? Non, moi je vous dis que aujourd'hui, nous prendre en charge, nous devons faire la pression pour qu'on applique l'accord, puisque c'est eux-mêmes qui l'ont signé. En 2006, nous sommes partis aux élections sans des accords, sans des dialogues. En 2011, la même chose. Mais aujourd'hui, on multiplie des stratagèmes. Il faut faire ceci, il faut faire cela. C'est parce que c'est le dernier mandat du président de la République. Le président de la République est irremplaçable. 80 millions de Congolais, il n'y en a pas d'autres. Et nous allons continuer à faire ce que nous avons refusé à Mobutu. Et pour quelles raisons? Non. Moi, je pense qu'il est temps la nouvelle classe politique naisse et que ça soit une classe politique qui travaille pour le pays et pas pour leur ventre. La classe politique qui pense qu'ils peuvent se sacrifier pour sauver le Congo et non pas continuer dans cet élan. Parce que nos enfants risquent de penser que c'est comme ça que nous devons gouverner. C'est comme ça que nous devons vivre.
Alors, on va prendre Blanchard qui est à Kinshasa également. Blanchard, bonjour.
Bonjour, parole aux auditeurs. C'est Blanchard Mongomba à Kinshasa et je salue l'invité, Steve Kivoat, qui est au plateau.
Alors, quel est votre avis?
Bonjour.
Blanchard.
Merci beaucoup. Je pense que je suivis les auditeurs, mais nous devons rappeler une chose, parce que vous savez, parole aux auditeurs, nous devons dire que lorsque les amis demandent à ce que nous puissions que l'accord soit appliqué, ils oublient une chose. Nous avons commencé, et les acteurs politiques ont commencé premièrement par violer la date de l'organisation des élections prévue par la Constitution du 18 février. Deuxièmement, ils ont violé la date que prévoyait cet accord-là, que eux, que les populations, que nos vos intervenants ont appelé pour dire que nous devons respecter l'accord. Cette date-là n'a pas été respectée, la date du 31 décembre 2017. Et aujourd'hui, nous sommes en face d'une date que la CENI nous a présentée. Malheureusement, cette date-là pose encore problème, parce que la CENI elle-même, en présentant la date du 23 décembre 2018, elle a prévu encore des contraintes. Et ces contraintes-là posent problème. Ça prouve que la CENI elle-même n'est même pas sûre que cette date sera respectée. Voilà pourquoi nous devons ici saluer le message du patriarche Antoine Gizenga lorsque il demande à ce que qu'il y ait un cadre de concertation de manière permanente. Il faut que la CENI invite les acteurs pour que nous puissions échanger. C'est une façon de baliser le chemin pour s'assurer qu'effectivement nous irons aux élections au 23 décembre, parce que, comme je le dis, on a déjà violé ou on a dépassé les deux dates qui étaient premièrement constitutionnelles, et la deuxième date c'était une date prise de bonne foi par les parties prenantes au dialogue. Malheureusement, ils n'ont pas respecté ça. Mais qu'est-ce qui peut nous rassurer que nous serons en mesure de respecter la date que la CENI nous prévoit aujourd'hui? C'est une évidence que les acteurs se mettent autour d'une table pour que nous puissions être rassurés.
Dégager une option définitive.
Au 23 décembre, il n'y aura pas, une fois de plus, un glissement qui risquerait de nous amener contre le mur,
comme l'a dit le secrétaire. Merci beaucoup, Blanchard. Alors, réaction rapidement à Steve Kivoata. Et puis, si vous pouvez peut-être faire une analyse. Est-ce qu'au niveau de Palou, vous avez déjà fait une analyse du chronogramme tel qu'est présenté par ce calendrier proposé par la CENI?
Bien sûr, effectivement, mais je voudrais commencer d'abord par répondre à Monsieur Félicien, que deux fois j'admire, mais aujourd'hui, malheureusement, je sens qu'il y a un problème de logique dans ses propos. Ici, c'est pas le lieu, effectivement, de taler les bilans du Palou, parce que certes, il y a un bilan de la majorité, mais chacun a eu sa responsabilité et a eu le résultat de sa gestion. On aura peut-être d'autres endroits pour débattre avec lui sur ses bilans du Palou, et personnellement, j'aimerais bien savoir son engagement politique et qu'est-ce que ça produit comme résultat jusqu'alors, c'est un débat qu'on pourra faire. Mais son problème de logique, c'est premièrement, il demande l'application de l'accord. Personnellement, c'est un concept creux. Il lui souviendra, je vais lui rappeler, que l'accord de Saint-Sylvestre, contrairement à ce que nous demandions une date exacte et précise pour l'organisation des élections. On est venu plusieurs fois ici, mais dans cet accord, on a entretenu un flou. On a donné une date qu'on savait d'ores et déjà qu'on n'allait pas respecter, le 31 décembre 2017, mais en mettant le toutefois et en donnant compétence à une tripartite dont on parle aujourd'hui, que le Palou récuse, le CNESA, la CENI et le gouvernement pour prolonger. Et malheureusement, c'est ce qui s'est fait aujourd'hui. Et nous, on dit que cet accord, effectivement, a prévu une prolongation éternelle. Parce que, toutefois qu'il existera cette tripartite, elle aura toujours compétence de prolonger. Alors nous on dit,
des stratégies, des stratagèmes.
Effectivement. Voilà. Et nous on dit, attention, nous personnellement comme Palou, on n'a plus confiance à cette tripartite. Et quand on appelle des acteurs, c'est ainsi que je voudrais insister ici. On ne parle pas du dialogue comme on l'a toujours tenu. On parle des cadres d'échange. Mais malheureusement dans notre pays, et bien sûr il y a cette faiblesse structurelle, c'est parce que tout le monde...
C'est un problème de sémantique. Oui. Parce qu'on a eu des consultations, des dialogues, mais finalement, les cadres,
ce sont des échanges. Mais ici, la faiblesse, effectivement, de notre pays, c'est quoi? Quand on appelle à un échange, c'est tout le monde qui veut se présenter. C'est parce que, entre autres, heureusement qu'on a soutenu le seuil de représentativité, qui va diminuer le nombre d'acteurs politiques, et on saura qui représente réellement le peuple. Aujourd'hui, il y a même des indépendants, même des gens qui n'ont jamais été élus, qui peuvent hausser la voix quand on demande un cadre d'échange, mais on doit aller vers de grands partis politiques et de grands regroupements pour que lorsqu'on demande un cadre d'échange, on sait qu'avec cette partie, c'est suffisant. On a des partenaires techniques et financiers, comme on l'a demandé, pour qu'ils nous rassurent sur les financements des élections. On a les gouvernements qui doivent aussi nous rassurer sur les élections pour que toutes les contraintes soient supprimer. Parce qu'effectivement, quand vous parlez du calendrier, nous pensons que c'est possible d'organiser les élections en cette fin d'année. Et on ne voudrait pas avoir une autre date. Mais pour cela, on ne doit pas vouloir à ce que les contraintes se transforment en alibi. Alors, pour que ça ne se transforme pas en alibi, tous les acteurs possibles, la société civile, le parti politique, eh bien, ils doivent s'entendre pour qu'on n'ait pas 1000 sociétés civiles. On doit avoir des gens qui sont représentatifs, non seulement représentatif par rapport à l'ancrage au niveau de la population, mais représentatif par rapport aux idées à défendre pour que, effectivement, ces calendriers soient réalisés.
Mais quelles sont ces idées aujourd'hui développées par Palou, qui a fait d'ailleurs par les billets de ses membres, pas les moindres, Adolf Mouzitou, qui est allé dans une tournée euro-américaine pour expliquer aux combattants, pour expliquer à la diaspora l'idéologie au fait de Palou, c'est que Palou veut l'objectif à atteindre dans les prochains jours, et le même exercice a été fait aussi au niveau des provinces, les Kikwit, et puis jusqu'au niveau de Tchikapa. Alors, disons, en toile de message, c'est quoi au juste qui a été véhiculé?
Le message, c'est d'abord rassurer le peuple. Nous, je vous dis, un de nos slogans, c'est pouvoir au peuple. Un autre, c'est la devise, c'est le peuple vaincra. Nous sommes un produit du peuple. Nous sommes nés en dehors du pouvoir. Nous sommes nés dans le peuple. En 1964, il n'y avait pas de pouvoir. Et pendant 42 ans, nous avons tenu dans l'opposition. Et dans le pouvoir, les gens ont pu voir comment est-ce que le Palou a géré. Eh bien, on autorisait qu'on nous critique. Il y avait la démocratie. On n'attaquait pas des journalistes.
Et Palou, à cette époque-là, constituait un groupe de pression. Aujourd'hui, c'est un chien qui dort.
Non! Eh bien, nous venons, à travers notre déclaration, d'aboyer. On vient, à travers notre déclaration, d'interpeller. Nous sommes des Lumumbistes. Nous sommes un produit du peuple, je le rappelle. Et le patriarche Antoine Gizenga, mais aussi l'ancien premier ministre Mouzito, à travers sa tournée, a rappelé que nous tenons aux élections et que nous allons présenter le candidat à tous les niveaux parce que nous avons un bilan, parce que nous avons une vision pour ce pays que nous devons vendre. Nous avons une culture politique. Et à travers ce discours, on a aussi interpellé tous les détenteurs du pouvoir pour leur dire, des fois, il faut accepter les critiques.
Pour amener le pays vers la décentralisation, un pays fortement décentralisé.
Effectivement.
Qu'on change la constitution actuelle.
Bon, la constitution actuelle, je pense que c'est un projet. C'est pas maintenant, on doit avoir deux acteurs politiques légitimes avant qu'on y pense, parce qu'il y a deux éléments réellement à changer, mais aujourd'hui c'est la gestion qu'on doit améliorer. Par exemple, pour ce qui est de la décentralisation, on doit permettre aux provinces de mieux gérer leurs ressources. Aujourd'hui, la rétrocession des 40% est devenue une illusion, pendant qu'à l'époque, avec l'ancien Premier ministre Mouzito, nous sentions une certaine évolution. En termes de rétrocession, au fur et à mesure, les provinces étaient suffisamment dotées de leurs ressources. Mais aujourd'hui, il y a tellement de conflits au niveau de provinces parce que la rétrocession ne s'est fait pas.
Les députés provinciaux. Oui, mais il y a encore des provinces qui se cherchent pour s'adapter à la loi sur le libre fonctionnement des provinces.
C'est parce qu'effectivement, entre autres, avec cette question de division de provinces, ça créait plusieurs problèmes parce qu'on a aujourd'hui des provinces qui sont complètement démunies des ressources. Mais en termes de grande vision, c'est ces soucis-là de remettre le pouvoir au peuple, et on y tient. On a un programme qu'on présentera au moment opportun avec le candidat à tous les niveaux.
Voilà, avant de conclure cette émission avec vous, Valérie est à Kinshasa. Valérie, bonjour et bienvenue.
Bonjour JR, bonjour à monsieur Steve Kibata.
Bonjour.
Bien, je l'ai suivi religieusement. Il a dit que monsieur Félicien a un problème de logique, mais moi j'ai dit non, j'ai suivi monsieur Félicien, que je salue en passant, il a été cohérent. C'est plutôt lui-même, M. Steve Kivata, en qui, moi, je trouve un peu de sophisme. S'il vous plaît, le Palou ne doit pas nous vanter l'historicité pour dire qu'il existe depuis 1742, alors qu'il ne vante pas les résultats. Nous devons aller dans la quête des résultats. Moi, personnellement, il pourra nous répondre à ce sujet. Je me suis toujours demandé si Palou est un parti politique ou une organisation folklorique. Dire qu'il existe depuis 1942. 1964. Ok, merci. 1964. Mais l'UDPS qui a été née en 1982, c'est cette UDPS-là qui est la fille aînée de l'opposition et Palou ne les contredira pas.
Une confusion de l'histoire.
Du fait que Palou a existé bien avant, mais qu'il n'a pas pu piloter l'opposition, qui n'a pas pu inculquer l'esprit des révolutionnaires, alors le peuple ne doit pas se vanter de cela. Dire qu'on cherche un cas de concertation, mais la CENI a toujours un mécanisme de concertation avec les partis politiques qui ne demande pas quelque chose
oui, de... Oui, qui ne fonctionne pas depuis un certain temps. On a baissé ça avec les activités, Valérie. Depuis, okay, en tout cas, ça fait une année avant même les dialogues de la cité de l'Union africaine et même celle de la Saint-Sylvestre, il n'y avait plus ces cas de concertation. Nous avons suivi pas à pas cette évolution. Merci beaucoup, Valérie, parce que le temps nous fait défaut. On va conclure quand même avec notre invité. Qu'est-ce qu'on peut retenir aujourd'hui? Le Palou se réveille. Et entre-temps, le peuple ne fait plus confiance au Palou. Voilà, donc ça sera peut-être ça notre conclusion. Mais avant cela, permettez-nous, Steve, d'accueillir dans ses studios Nico Kalambay, qui va nous faire découvrir les sujets qui seront abordés demain. Bonjour Nico.
Bonjour JR et bonjour à tous les auditeurs. Demain donc, on va aborder un autre thème. Le procès en appel sur demande des avocats de Jean-Pierre Bemba, ouvert la semaine dernière, se poursuit à la Haye. Et pour la défense, la Cour a confondu en première instance le concept de contrôle effectif des troupes avec le commandement général de la rébellion. Entre-temps, le bureau du procureur a lui aussi fait appel de la décision pour être une justice à valeur d'exemple. Selon l'accusation, la cour aurait dû cumuler les peines infligées pour chaque crime, soit 84 ans au total. Que pensez-vous de ce procès? C'est autour de ça que nous allons débattre demain à 11h de Kinshasa.
Alors jusque-là, nos numéros de contact n'ont pas changé. C'est le 09 97 06 63 30 ou encore le 09 97 06 49 69. C'est bien ça?
Voilà.
Mais les auditeurs peuvent aussi nous écrire et commenter les sujets sur notre page.
Ils peuvent donc nous écrire et laisser leurs commentaires sur notre page Facebook.
Consultez aussi pa@radiocapi.net. Alors Steve Kivota, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut retenir? Palou se réveille de son sommeil?
Oui, je voudrais répondre rapidement à Monsieur Valéry. Je me rends compte que, contrairement à Monsieur Félicien, qui aurait un petit problème de logique, lui, il a un problème d'histoire. Parce que si il peut être d'accord avec moi que le Palou a été créé en 64 et que l'UDPS a été créé en 1982, parler de l'UDPS comme étant une fille aînée de l'opposition, ça pose un problème d'arithmétique. Personnellement, je pense qu'on pourra en discuter avec lui un autre jour. Mais ici, il faut rappeler tout simplement, lui-même il l'a dit, vous l'aviez contredit rapidement, le cadre d'échange avec le parti politique ne se tient plus, mais ici le cadre dont on parle va au-delà de parti politique parce qu'on a appelé aux partenaires techniques et financiers, on a appelé à la Monisco et à d'autres pays. Eh bien, c'est un peu comme la tripartite pourrait s'éteindre, mais cette fois-ci on veut qu'on ait une tripartite élargie à ces acteurs importants qui peuvent nous permettre d'élaguer des contraintes et finalement d'organiser les élections en cette fin d'année. Je ne sais pas si lui n'a pas besoin d'élections. Mais nous, parti Palou, nous ne vivons que des élections.
Alors si ce n'est pas un secret, Adolphe Mouzitou est-il candidat à la présidentielle?
C'est le Palou qui va le définir. Est-ce qu'ils vont le définir à travers le primaire?
Parce qu'on a l'impression que c'est lui qui sort les gants à la place du Palou.
Non, attention, il y a plusieurs cadres, il y a plusieurs autres personnalités. Mais lui, il a été Premier ministre après Antoine Gizenga. Eh bien, il a une plus grande responsabilité parce que finalement, le bilan, c'est lui qui peut mieux le défendre.
Merci beaucoup, Steve Kivota, cadre de Palou et porte-parole de Adolphe Mouzitou. Merci à toute l'équipe qui a concouru à la production de cette émission. Merci aussi à tous les internautes qui ont commenté ce sujet sur notre page Facebook. On prend rendez-vous avec vous demain dans un autre numéro de Parole aux auditeurs. Jean-Claude Sala était à la technique, Pierrot et Lamégie à la réalisation, Nico Kalambaye au standard, Jirlungembo Luabung Angie a eu le plaisir de coordonner et présenter cette émission sous la supervision de Julien Niamouidi. À très bientôt.